Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nainar Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre, publié en 1933 et lauréat du prix Goncourt la même année. La condition humaine est un roman d'André Malraux situé à Shanghai pendant l'insurrection communiste de 1927 et sa répression par les nationalistes de Chiang Kai-shek. Le livre suit notamment Kyo Gizors, organisateur révolutionnaire, Chen, engagé dans la violence clandestine, Kato, militant russe expérimenté, ainsi que des figures liées aux intérêts européens présents dans la ville. Il ne propose ni une chronique historique exhaustive, ni une défense simpliste d'un camp. La révolution y sert plutôt de cadre extrême où se révèlent des choix personnels, des fidélités fragiles et la proximité constante de la mort. Malraux interroge ce qu'un individu peut faire de sa liberté lorsque les événements collectifs semblent décider de tout. Par une prose dense, des scènes d'action resserrées et de longs échanges d'idées, le roman associe tensions politiques, réflexions morales et exploration de la solitude humaine. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, Shanghai 1927 comme laboratoire de la révolution et de la domination, Shanghai ne constitue pas un simple décor exotique dans la condition humaine. La ville concentre des forces politiques et économiques rivales les révolutionnaires communistes, le Kuomintang, les intérêts étrangers et les réseaux d'affaires qui cherchent avant tout la stabilité utile à leur profit. Cette pluralité empêche de réduire le conflit à une opposition abstraite entre le bien et le mal. Les personnages agissent dans une ville divisée où les alliances tactiques peuvent rapidement devenir des instruments de répression. Le basculement contre les communistes montre notamment combien une stratégie fondée sur une coalition provisoire peut laisser les militants exposés lorsque le rapport de force change. Malraux met ainsi en relation les décisions de dirigeants lointains, les calculs des puissances économiques et l'expérience immédiate de combattants anonymes. L'histoire apparaît comme une contrainte concrète, elle détermine les armes disponibles, les voies de fuite, les possibilités de négociation et les risques encourus. Mais elle ne supprime pas entièrement la responsabilité. Les protagonistes doivent encore décider de combattre, de se retirer, de protéger autrui ou de consentir au sacrifice. Ce double regard historique et existentiel donne au roman sa portée durable. Il éclaire la violence de la révolution tout en refusant de dissoudre les consciences individuelles dans le seul mouvement des masses. Deuxièmement, l'engagement révolutionnaire face au conflit entre idéal collectif et existence singulière, le roman examine l'engagement non comme une réponse confortable à l'absurdité, mais comme un choix qui expose l'individu à des contradictions irréductibles. Kyo incarne une forme de responsabilité politique, il pense l'organisation, la discipline et les conséquences collectives des actes. Pourtant, son rôle public ne le protège ni du doute ni des difficultés de sa vie intime. À travers lui, Malraux montre que servir une cause ne rend pas automatiquement cohérente toutes les dimensions de l'existence. Chen représente une tension plus radicale encore. La nécessité de tuer au nom de la révolution transforme son rapport au monde et à lui-même. La violence n'est pas présentée comme une technique neutre dont la noblesse de la fin effacerait le coup moral. Elle marque celui qui l'exerce, même lorsqu'il croit agir pour les opprimer. Les autres militants offrent des manières différentes de supporter ce conflit entre le moi et le collectif solidarité, endurance, lucidité ou recherche d'une dignité dans l'action. Aucun personnage ne reçoit une réponse définitive sur la valeur absolue de l'engagement. La question centrale demeure une action historique, peut-elle arracher l'être humain à sa solitude sans l'absorber dans une idéologie ou dans la destruction? Cette hésitation préserve le livre du roman de propagande et explique la complexité de ces figures révolutionnaires. Troisièmement, la mort et le sacrifice comme épreuve de la dignité humaine, dès ces scènes initiales, la condition humaine place les personnages devant la matérialité de la mort. Malraux ne traite pas celle-ci seulement comme une péripétie destinée à accroître le suspense. Elle oblige chacun à mesurer ce qu'il est prêt à faire, à subir ou à abandonner. L'assassin confronté à sa première victime découvre que l'idée d'un meurtre politique ne neutralise pas la présence physique d'un être humain. Plus loin, l'arrestation, la torture possible et l'exécution font de la mort un horizon partagé par les insurgés. Dans ce contexte, le sacrifice de Kato prend une importance particulière. Son geste de solidarité envers ses compagnons détenus ne promet aucune victoire militaire et ne répare pas l'échec de l'insurrection. Il affirme cependant qu'une liberté morale reste possible dans une situation où tout pouvoir extérieur semble perdu. Malraux ne glorifie pas naïvement le martyr. Le courage ne supprime ni la souffrance ni l'inutilité apparente de certaines morts. Il suggère plutôt que la dignité se joue dans la manière de ne pas traiter autrui comme un simple moyen, y compris lorsque la survie devient presque impossible. Cette attention à la fraternité au sein de la catastrophe distingue le roman d'une fascination pure pour l'héroïsme. La mort révèle l'isolement des êtres, mais elle révèle aussi leur capacité à former une communauté momentanée par le partage du risque et de la compassion. Quatrièmement, solitude, relations intimes et impossibilité d'une identité unifiée, Malraux associe constamment les conflits politiques aux fractures intérieures. Les personnages parlent, aiment, désirent ou se souviennent, mais aucune relation ne les délivre complètement de leur solitude. Le couple formé par Kyo et Mei en est une illustration essentielle. Leur lien ne disparaît pas derrière l'urgence révolutionnaire et les tensions conjugales ne sont pas de simples épisodes secondaires. Elles montrent que l'engagement public ne résout pas les questions de confiance, de désir et de reconnaissance mutuelle. Le rapport entre Kyo et son père, Gizor, ouvre une autre perspective, l'expérience, la réflexion et le retrait ne coïncident pas nécessairement avec l'action immédiate. À côté des combattants, des personnages comme Clapic évoluent dans le jeu l'opium, la fuite et la sociabilité mondaine. Leur présence souligne que la ville abrite aussi des existences qui cherchent à esquiver l'affrontement direct avec la mort ou avec la responsabilité. Ces trajectoires ne sont pas équivalentes moralement, mais elles participent d'une même interrogation sur les moyens de supporter l'existence. Le roman refuse l'image de héros entièrement définie par leur fonction politique. Chez Malraux, l'homme est traversé par des aspirations incompatibles, vouloir appartenir à une cause, préserver son autonomie, être aimé et échapper à l'angoisse. Cette complexité intime rend plus sensible le prix réel des décisions prises dans l'histoire. En dernier lieu, une forme romanesque tendue entre actions. Dialogue philosophique et regard politique, la force formelle de la condition humaine tient à la compression de son récit. Les événements se déroulent sur une période brève et dans un contexte de danger immédiat, ce qui donne aux décisions un caractère urgent. Malraux alterne des scènes très visuelles, souvent nocturnes ou enfermées, avec des conversations où les personnages confrontent leur vision de l'action, de la mort et de la liberté. Cette construction ne sépare donc pas l'aventure de la pensée. L'attentat, la réunion clandestine, l'arrestation ou la fuite sont suivis d'un retour sur ce que l'acte a fait à la conscience de celui qui l'a accompli. La multiplicité des points de vue empêche aussi le lecteur de s'identifier sans réserve à une seule position. Les militants. Les hommes d'affaires et les étrangers présents à Shanghai n'ont pas les mêmes intérêts ni le même langage, mais tous sont pris dans une époque qui excède leurs calculs. Le style peut paraître exigeant, car il privilégie l'intensité et la condensation plutôt que l'explication historique détaillée. Cette difficulté est fonctionnelle, elle restitue un monde où l'information est incomplète, où les décisions doivent être prises avant que leurs conséquences soient connues. Le roman devient ainsi à la fois un récit de crise politique et une méditation sur les limites de la maîtrise humaine. Son énergie narrative ne sert jamais seulement l'intrigue, mais pousse à examiner le sens des actes accomplis sous contrainte. En conclusion, la condition humaine s'adresse particulièrement aux lecteurs de romans historiques et politiques qui recherchent davantage qu'une reconstitution d'événements. Une connaissance préalable de la Chine des années 1920 peut aider à situer les forces en présence. Mais elle n'est pas indispensable pour suivre l'enjeu principal: comment des êtres ordinaires ou exceptionnels affrontent-ils la violence, la loyauté et la mort lorsque l'histoire accélère autour d'eux. Le livre conviendra aussi aux lecteurs intéressés par les rapports entre existentialisme, action collective et responsabilité morale. Il demande une lecture attentive car son style condensé, ses changements de focalisation et ses débats d'idées ne visent pas la transparence immédiate. En retour, il offre une compréhension plus nuancée de l'engagement que les récits héroïques ou strictement documentaires. Malraux ne célèbre pas simplement les révolutionnaires, pas plus qu'il ne réduit leurs adversaires à des silhouettes sans épaisseur. Il observe le prix psychique de la violence, la fragilité des alliances et la valeur ambiguë du sacrifice. Comparé à de nombreux romans de révolution, il se distingue par l'alliance rare entre ampleur géopolitique et intensité métaphysique. Shanghai est un lieu historique précis, mais aussi un espace où se posent des questions persistantes sur la solitude, la dignité et la possibilité d'agir sans certitude. C'est cette double échelle collective et intime qui explique la place durable du roman dans la littérature du XXe siècle. Si vous souhaitez soutenir André Malraux, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.